voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans tous les cinémas du monde avec la rediffusion cette semaine d'une émission spéciale consacrée à la jeune cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. Nous l'avions rencontrée à l'occasion de la sortie de son premier long métrage Atlantique, un film couronné par le Grand Prix du Festival de Cannes en mai dernier et dont on vient d'apprendre qu'il fait partie de la shortlist dans l'Oscar du meilleur film étranger. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Un film d'amour fou à la croisée du documentaire et du fantastique qui capte la jeunesse dakaroise, celle qui part et celle qui reste à travers l'histoire de Souleymane et Ada. Bonjour Mati Diop.
Bonjour Elisabeth et Sophie, merci de me recevoir.
Atlantique, l'histoire de deux jeunes gens qui s'aiment passionnément. Souleymane est ouvrier sur un chantier, il est pauvre. On devine que cet amour n'est pas vu d'un très bon œil par les parents d'Ada qui veulent lui faire épouser un homme d'affaires, enfin quelqu'un de riche en tout cas. Bref, c'est un petit peu Roméo et Juliette à Tiaroy jusqu'au moment où Souleymane décide de prendre la mer, de partir en Europe pour s'assurer un avenir meilleur et peut-être dans un futur proche pouvoir enfin épouser Ada. Alors avec vous, Mati Diop, nous allons revenir plan par plan sur les 10 premières minutes d'Atlantique. Vous allez les raconter aux auditeurs de RFI. Mais avant, on peut peut-être revenir sur l'origine de ce projet qui est assez lointaine parce que avant Atlantique, le long métrage, il y a eu Atlantique, un court métrage documentaire. Je crois que c'était en 2008.
C'est oui, ça exactement. Le tournage a lieu en 2008 et puis j'ai repris le montage du film en 2009. Et c'est pas tant que les films sont si liés. En fait, ils sont liés par une même situation, économique, sociale. Ils parlent de la même période en étant abordés très différemment. Déjà, Atlantique, le premier est court, dure 15 minutes. C'est un film quasiment autoproduit, qui a finalement été récupéré par une boîte de prod et par le Frénois.
Et ça raconte l'histoire de jeunes dakarois.
Ça raconte l'histoire d'une seule personne, en fait. J'ai justement eu envie de filmer un garçon, une histoire, une expérience, parce qu'à l'époque, il me semblait très important de personnaliser ses trajectoires en mer et justement de proposer, avec les outils du cinéma, un contrepoint très fort qui s'opposait à ces espèces de masses informes dont il était question dans les médias, où on ne savait même plus s'il était question d'être humain derrière, tellement les statistiques rendaient absolument abstrait et dévitalisaient ces situations.
Des situations d'émigration.
Des migrations, d'où mon choix de filmer un garçon qui raconte sa propre histoire par lui-même, qui se raconte. Et l'idée, c'était de faire se réapproprier ce récit-là par un acteur des faits. Mais déjà, à l'époque, je convoquais la figure d'Ulysse à travers Sérigne, qui avait 20 ans et qui revenait juste d'une traversée en mer. Et la question...
où il avait échoué à s'installer en Europe.
Il avait été rapatrié, en effet, par la Croix-Rouge. Et déjà, à travers ce court-métrage, la question de la dimension mythologique, épique, était déjà assez présente. Et quelques années plus tard, après quelques courts-métrages, il y a eu Mille Soleils, il y a eu aussi deux films tournés en France, j'ai senti que j'en avais pas fini avec cette histoire. C'est comme si cette jeunesse disparue en mer me continuait à me hanter finalement.
Que Sérigné pouvait avoir un petit frère de fiction.
Il se trouve que le personnage qui a donné naissance à Ada, l'héroïne d'Atlantique, le long métrage, c'est la sœur de Sérigné, celle que j'ai filmée lors de ses funérailles et qui m'a peut-être glissé à l'oreille l'idée de faire de cette fille qui est restée finalement derrière Sérigné. Bon, alors ce qui est différent, c'est que Sérigné n'est pas décédée en mer, mais sur terre, mais en tout cas, elle incarnait tout d'un coup quand même celles qui restent, celles qui font l'expérience de la perte, de la disparition de ces garçons. Et c'est comme ça que le personnage d'Ada est né, que j'ai voulu raconter l'histoire des disparus en mer à travers le point de vue d'une jeune femme, d'une jeune fille.
Alors Mati Diop, vous allez nous faire découvrir en exclusivité pour RFI les 10 premières minutes de votre film Atlantique, première bobine. On écoute le son d'un chantier, on est à Dakar, il y a des ouvriers sur des échafaudages, il y a un troupeau de vaches qui passe. En fait, c'est un peu les deux Sénégals qui se croisent, hein, le Sénégal du passé et puis celui du futur.
Il est vraiment question de temporalité, en effet. On est en effet sur un chantier. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette lumière atomique, assez hostile. Le fait que ces ouvriers circulent dans un espace comme ça, désertique, impersonnel, dans des dimensions beaucoup trop vastes pour eux.
On se croirait sur Mars.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est
en fait, c'était à la fois l'idée et l'envie de commencer le film dans un ancrage documentaire et en même temps que la dimension fantastique soit déjà présente à travers la lumière, à travers l'espace, à travers ce côté comme ça assez... oui, martien, quoi.
Ce troupeau de vaches, il y a un troupeau de vaches
qui
traverse.
Oui, il y a un troupeau. Alors oui, c'est à la fois très important et un peu, enfin c'est un clin d'œil à Tukibuki, mais vraiment, enfin
c'est surtout qu'on est Betty, hein, qui est votre oncle.
Voilà, c'est surtout que je voulais montrer cette espèce de ville du futur construite en plein milieu du Sahel désertique, en fait, comme si ce futur s'était construit un peu nulle part. Il y a un côté Far West où on vient construire comme ça un empire dans un désert. Et évidemment, alors le film, ce qui m'a beaucoup frappé lors des repérages, c'est de voir de mes yeux, d'avoir la sensation que ces ouvriers qui travaillent à construire cette ville future ne seront pas, ils construisent de leurs mains avec leur corps une ville qui ne leur fera pas de place. Ils construisent une ville destinée à un mode de vie haut de gamme et c'est assez troublant de voir d'observer ça. Donc le film s'ancre dans une dimension documentaire immédiate. C'était très important pour moi et ça n'a pas été facile au niveau de l'écriture de hiérarchiser les enjeux. J'ai eu envie qu'on soit dans le cœur de la problématique socio-économique tout de suite. Comme les garçons partent très vite, il fallait arriver à travers une scène à incarner le plus frontalement possible leur situation. Et puis, je pense que j'avais aussi envie de... Il y a des jeunes hommes qui ne trouvent pas de travail et qui partent pour ces raisons-là, mais il y en a qui travaillent du matin au soir et qui sont pas payés. C'était aussi l'idée de la dimension un peu esclavagiste de certains chantiers modernes et que finalement, ce futur qu'on va apercevoir très vite à travers cette tour qui est comme impossible, qui ressemble à un mirage, l'idée que cette ville du futur se construit sur cette exploitation-là. Voilà. Après, il y a cette scène dans ce bureau. Très documentaire pour le coup, hein.
Oui, alors justement, c'est la séquence suivante et on est en plein cœur de ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur l'esclavagisme des temps modernes, puisque les ouvriers sont très en colère, puisque la direction du chantier vient de leur dire qu'ils ne seront pas payés.
Voilà. La direction vient de leur apprendre qu'ils ne seront pas payés.
Et on comprend que ce n'est pas la première fois. Il y en a un qui dit à chaque fois, c'est un peu plus tard.
Voilà, c'est ça. Et donc, au milieu de ce groupe de garçons, se distingue un jeune homme, Souleymane, qui...
qui est au centre.
Qui est au centre et qui
est désespéré.
Qui est désespéré, qui dit à l'entrepreneur qu'il attend 21 heures.
Si je suis en train de me faire 20 heures ou 21 heures, je ne suis pas en train de me faire. Mais je ne suis pas en train de me faire.
Tous les jours qu'il attend 21 heures avant de rentrer chez lui, qu'il fasse nuit, tellement il a de dettes dans le quartier, et qu'il lui rappelle simplement que c'est pour sa famille, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs qui travaillent, et que cet argent-là, il faudra leur rendre un jour ou l'autre.
Donc là, c'est en Wolof ?
C'est en Wolof, absolument.
Ça, c'était un choix pour vous, évident, même si vous ne parlez pas la langue.
Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si je ne parle pas Wolof, c'est mon problème. C'est pas une raison pour aller, pour demander à des acteurs sénégalais de parler français. Et bien sûr que c'est un choix très très net de ma part de tourner ce film en Wolof, pour la simple et bonne raison que c'est la langue principale au Sénégal, et que les personnages de mon film... parle cette langue, tout simplement. Après, c'est vrai qu'on a pris le risque de se priver de certains guichets à cause de cette langue-là.
Et puis guichet, finalement, en fait, on peut peut-être l'expliquer pour
de guichets de financement, pardon, comme le CNC, où on n'était pas sûr que cette langue serait éligible, en fait. Et on a eu la l'heureuse
surprise
de découvrir que c'était une langue éligible. Mais même si ça n'avait pas été le cas, j'aurais jamais fait de compromis sur la langue du film.
Le plan suivant après chez le patron, là, donc, on est traveling sur un camion.
Les ouvriers qui sont à l'arrière de ce camion sur un pick-up. Il y a une sorte de face-à-face, comme de duel entre Souleyman, qu'on pressent déjà être le héros du film, qui regarde cette tour dans les yeux avec un air de défi. Et c'est surtout cette tour qui semble le défier,
en fait.
C'est
quoi cette tour ? C'est une tour totalement futuriste.
On comprend que cette tour fait partie du chantier qu'ils sont en train de construire sans être payés. Et voilà, et la dimension fantastique de cette tour ancre le film aussi dans cette dimension-là. Et surtout, pour moi, elle insuffle une dimension complètement fantasmagorique du futur. C'est une tour qui est censée incarner la ville future, la ville en construction, l'avenir. Et finalement, comme on voit que cet avenir, que ce chantier est construit par des jeunes hommes qui sont pas payés, quel futur, quel avenir. Donc,
et puis il y a ce travelling. Enfin, du coup, c'est pour ça que la caméra bascule vers l'océan. C'est déjà l'ailleurs, c'est déjà le possible.
C'est ça, l'idée c'était de filmer ces garçons à l'arrière de ce pick-up. En particulier Souleyman, déjà de vraiment se concentrer sur lui et puis de sentir qu'il est déjà parti, en fait, qu'il est déjà là-bas. C'est un plan qui est presque un plan final, en fait. C'est à la fois une ouverture sur notre personnage principal, notre héros, à qui on dit déjà au revoir.
Et l'océan, je trouve que vous le filmez d'une façon très très particulière, comme une espèce de masse laiteuse qui se confond presque avec le sable et le ciel.
C'est un élément que j'ai vraiment pris le parti avec Claire Maton, ma chef opératrice, de filmer d'emblée comme un élément fantastique. Il est toujours regardé comme une sorte de planète, en fait, de planète qui n'est, de territoire qui n'est pas fait pour l'homme, qui n'est pas faite pour être traversé, qui appartient à un autre, qui est une sorte d'autre côté, en fait.
Mais vous savez quoi ? On a l'impression que c'est presque une force tellurique.
Absolument.
Qui va forcément attirer le héros, et c'est là qu'on est déjà dans le
Absolument.
Conte gothique.
Voilà, exactement. Et il y a déjà une fusion étrange qui se produit entre le personnage principal, Souleyman, et l'océan, au fur et à mesure du film, et aussi accentué par cette musique lyrique. L'océan et ce jeune homme ne font plus qu'un. Et il y a une charge mentale très forte, parce qu'on n'entend pas ce que dit ce garçon, il ne parle pas, on est sur son visage, l'océan, la musique, et pourtant on a l'impression qu'il nous livre son secret, qui va partir, mais qui ne peut pas nous le dire. Mais on le devine.
Il y a un jeu de mixage justement au son,
ouais,
entre les bruits des vagues, l'océan, et ce chant autour de, oui, auquel Souleymane ne participe pas. On ne sait, oui, pas ce qu'il se chante, c'est presque, oui, comme une transe aussi.
Exactement, en fait ce sont des chants religieux, musulmans, que beaucoup de jeunes au Sénégal ont l'habitude de chanter ensemble à différents moments, pour différentes raisons. Et c'est une scène qu'on avait d'abord tournée sans chant. Et les rushs étaient vraiment pas mal, mais il manquait pour moi quelque chose de fondamental. Et ce qui manquait, c'était la transe. Et c'était la transe, la cohésion dans ce voyage, dans ce projet secret entre eux. Et pour moi, les chants, c'était vraiment une manière de toucher à cette dimension de du rite, de la transe, et que ces voyages sont à la fois entrepris pour des raisons extrêmement implacables, économiques, de situations limites qui poussent ces jeunes à partir, mais qu'il ne s'agit pas que de cela, qu'il y a aussi peut-être une forme de nécessité, enfin, de manière, je dirais, inconsciente ou plus lointaine, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas aussi une dimension de rite initiatique, une manière de passer de l'adolescence à l'âge d'homme, une manière de se prouver qu'on, voilà, qu'on... Alors malheureusement, il y a aussi la triste sensation que c'est en arrivant jusqu'en Europe qu'on devient vraiment quelqu'un, ce qui est terrible. Et c'est d'ailleurs la manière dont vous introduisiez la situation d'Ada. Elle n'épouse pas Omar simplement parce qu'il est riche, mais aussi parce que quelque part, le fait d'avoir été lui-même un immigré, étant passé par l'Italie, on a l'impression qu'on lui accorde plus de valeur simplement parce qu'il est passé par l'Europe. Et en tout cas, bon, je divague un peu, mais pour revenir au chant, c'était vraiment une manière de plonger ces jeunes dans une transe comme ça commune, qui m'a aussi permise de distinguer Souleymane. Il suffisait que lui, il ne chante pas, contrairement aux autres,
pour
que
tout d'un coup, on dirait. Ouais, il ne sait pas s'il est dans la transe ou si c'est un débat intérieur.
Mais je pense que justement, on ne sait pas, et c'est bien de ne pas savoir. On est en tout cas, on sent qu'il se joue quelque chose. Qu'il est à la fois... En fait, c'est vraiment une manière d'être à l'intérieur du personnage, d'être vraiment dans un rapport viscéral à lui. Et c'est une musique que Fatima Al-Kadiri, la musicienne du film, a composée à partir de cette scène. Dans le film, certaines musiques existaient déjà, d'autres ont été vraiment composées pour la scène. Et je tiens particulièrement, évidemment, au morceau qu'elle a composé à partir du film. Je me souviendrai toute ma vie de la première fois qu'elle m'a envoyé cette mélodie. J'en ai pleuré parce que déjà, pour moi, la collaboration avec un musicien, voilà, autour d'un film, ça fait partie des... C'est un summum en termes d'idéal.
Alors on peut peut-être rappeler qui est votre père.
Oui, c'est le bon moment de le rappeler.
Qui est compositeur de films,
ouais, qui est
et qui entre autres composé toutes les musiques.
Qui est musicien et aussi compositeur de musique de film, qui a composé la plupart des musiques des films de son frère, Djibril Diop Mambéty. Et voilà, je suis une grande admiratrice de sa musique tout court, mais aussi de sa musique pour le cinéma, en particulier pour celle des films de Djibril, en l'occurrence Yen, qui est l'une des bandes-sons que j'aime le plus au cinéma. Mais je suis très attachée à plein d'autres couples de cinéastes, musiciens. Alors Carpenter, il se trouve qu'il compose ses propres films, mais Moroder ou Pino Donaggio sont vraiment des compositeurs qui ont fait des choses extraordinaires pour le cinéma. Et c'est vrai que pour moi, c'est un idéal absolu de création, quoi. Ces moments de collaboration musicaux pour la musique, pour moi, c'est le rêve absolu, quoi. Et du coup, quand j'ai entendu cette musique de Fatima pour cette scène,
donc synthétiseur, balafon,
elle compose avec des instruments électroniques, donc, mais il y a en effet à la fois une dimension très électronique et une plus acoustique, même si tout est fait au final digitalement. J'ai essayé vraiment de déplacer Fatima vers quelque chose de plus physique, de moins mental et de moins clinique, parce qu'elle ses musiques sont très atmosphériques, mais pour le film, à des moments, il a fallu aller vers quelque chose de plus incarné, de moins purement synthétique. Et en effet, elle a ajouté des éléments plus de style plus acoustique. Et pour moi, en fait, elle a réussi à créer l'hymne de cette jeunesse disparue, en fait. Et je pense qu'il n'y a que la musique qui est capable de ça.
Séquence suivante, Mati Diop. Donc, le camion est arrivé à Tiaroy. C'est quel genre de banlieue de Dakar? Comment vous la décririez?
Ce qui la caractérise, c'est que c'est une banlieue, un quartier de pêcheurs, fortement habité par une communauté, une ethnie qu'on appelle les Lébous, qui sont des pêcheurs, des familles de pêcheurs. Elles sont aussi marquées par le fait que énormément de jeunes sont partis de ces côtes. Et Tiaroy est particulièrement marquée par le massacre de 44, de tirailleurs sénégalais qui ont été abattus.
Sur lequel Samben Ousmane a fait un film magnifique.
Oui.
Et donc là, on découvre une voie ferrée.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce quartier, par rapport à son territoire. Hanté par cette histoire non
reconnue par la France.
Non reconnue.
On peut aller jusque-là.
Ouais, absolument. On peut absolument aller jusque-là.
Nous sommes à Tiaroy, une voie ferrée, un train qui passe, Souleymane est d'un côté et de l'autre, entre les wagons, on découvre Ada, sa bien-aimée Ada. C'est une merveilleuse façon de faire découvrir un personnage au spectateur.
Pour moi, c'est vraiment une scène qui incarne la fusion entre l'ancrage documentaire du film et sa dimension très romanesque. Je choisis pas des lieux par hasard, c'est pas simplement esthétique ou politique ou cinématographique, c'est pour toutes ces raisons à la fois, et le fait de tourner un plan extrêmement cinématographique, très lyrique, pourtant basé sur ce qui constitue l'essence même de ce quartier, c'est-à-dire les rails et ce train, pour moi ça incarne vraiment la démarche dans laquelle je m'inscris. Partir de rail, de ce train, de Tiaroy, et en faire un plan de cinéma dans toute son efficacité, mais aussi dans toute sa simplicité. C'est vraiment l'essence du cinéma, le mouvement, le travelling, le
montage. C'est le côté aussi alternatif. Il se voit de manière alternative, comme on
apprendra
plus tard.
Exactement.
Ça va se passer dans la réalité.
Et pour moi, que ce soit la scène du pick-up dont on vient de parler, de ces jeunes ensemble dans ce pick-up qui sont déjà en Europe dans leur tête, et cette scène, ce face-à-face, ce champ contre champ entre Ada et Souleymane, pour moi, c'est déjà un souvenir, en fait. Pour moi, filmer cette scène de cette manière, c'est déjà inscrire cette scène qui se passe dans le réel, l'inscrire comme un futur souvenir d'Ada. Et plus tard dans le film, quand je vois Ada penser à Souleymane, le regretter, être hanté par lui, c'est comme si j'avais eu envie que le spectateur revoie ces images de Souleymane et soit avec Ada dans cette réminiscence de ce moment-là, en fait. Et c'est vrai que ce début de film, il fallait qu'il soit très chargé par un côté très fragile, éphémère, à la fois filmer ces garçons comme s'ils étaient déjà partis, filmer cette première rencontre comme une première rencontre qui ressemble déjà à son souvenir, et surtout au souvenir que Souleymane va garder d'Ada, en fait.
Parce qu'en fait, Souleymane
ne lui dira pas qu'il part en mer.
Ne lui dira pas, part en mer.
Nous, on ne le sait pas vraiment non plus.
Sans doute. Et réapparaître sous la forme
d'un esprit.
D'un esprit.
Souleymane, Arthur Issa Diop.
Il va charger de l'enquête.
Suleiman, nous avons des concepts. Crime pour mon effet. Donc on a été diable. Et on a fait le rire.
Tu fais des pieds depuis une semaine?
Non, 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 de mon pied. Je vais aller voir 22h, 19h.
Suleiman, mon fils.
Cette dimension gothique du film Mati Diop, elle me fait penser à une phrase que vous aviez citée au moment de la sortie d'Atlantique, le court-métrage. C'était Serigne qui vous avait dit « Quand tu te décides de partir, quand tu veux partir, tu es déjà mort. »
Quand on décide de partir, c'est qu'on est déjà mort, oui. Et
c'était ça, le cœur du film.
En effet, c'est pas une phrase qui vient d'un livre, c'est Serigne qui me l'a dit de but en blanc une nuit lorsqu'on tournait. Et c'est vrai que cette phrase a vraiment agit en moi comme une formule qui m'a ouvert à une autre dimension de cette situation et qui a sans doute inscrit depuis ce moment-là le projet de consacrer un film à cette jeunesse fantastique. Voilà.
À l'époque, les jeunes sénégalais disaient Barcelone ou la mort.
Et qui est une autre formule extrêmement marquante,
violente, ouais.
Violente et violente surtout, très marquante. Ouais.
Aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, on peut comparer cette histoire de migration à celle de Toukibouki, le film de votre oncle, qui déjà était une histoire de migration, mais l'exil à l'époque était une sorte de fièvre romantique.
Exactement.
Tout a changé.
Oui, c'est exactement le sujet de Mille Soleils. L'idée, c'était vraiment justement d'essayer de...
Qui était l'un de vos courts-métrages,
oui,
qui revenait sur Toukibouki.
Un moyen-métrage, en effet, que j'ai tourné en 2013. Et l'idée, c'était vraiment de créer un dialogue autour de l'exil, sur deux générations, de comparer le rapport différent qu'elles ont eu à l'exil. Et en effet, la manière dont on voit Maury et Anta, les personnages de Toukibouki, prendre le bateau, même s'il n'y a que la femme qui le prend finalement, et la situation dans laquelle le caractère massif de ces départs des années 2000, j'ai été en effet saisie par la manière dont les choses se sont transformées, se sont aggravées, et surtout, comment dire, c'est vrai que dans la manière dont les jeunes partaient dans les années 2000, bon, déjà, il y avait la quantité qui était extrêmement impressionnante, comme si rien ni personne pouvait les arrêter de partir. Et ce n'est que mon point de vue, ma sensation, mais encore une fois, au-delà des raisons économiques, je sentais quelque chose de plus désespéré que ça, de plus sombre encore.
Mais parce que vous avez gardé quel souvenir de... C'était un peu un pic.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas aussi parmi eux des jeunes qui partaient de manière extrêmement pragmatique pour trouver du travail en Espagne, point barre. Je ne suis pas en train de me faire un délire lyrique et poétique sur cette jeunesse. Enfin, si, un peu, en fait. Mais parce que, voilà, c'est aussi une situation politique que j'ai décidé de traduire aussi à travers une sensibilité qui est la mienne, qui est romantique, qui est gothique, et que c'est aussi une autre manière d'aborder ce sujet, cette problématique. Et de toute façon, le risque, c'est de parler de tous ces jeunes comme un seul et même groupe. C'est pour ça que d'où l'importance d'écrire des personnages singuliers qui sont uniques et irremplaçables.
Et le choix du fantastique, donc on comprend bien aussi l'aspect romantique et poétique, mais il y a aussi évidemment c'est la convocation des esprits, des fantômes. Je pense que c'est encore très présent dans le Sénégal, tout moderne qu'il soit ou tout moderne qu'il veuille être.
Je voudrais juste revenir sur le thème poétique qui peut prêter à confusion, parce que ça peut être gênant d'avoir le sentiment qu'un sujet extrêmement grave et tragique soit traité avec poésie, ça peut créer des malentendus. Pour moi, la poésie, c'est pas une fuite du réel, c'est vraiment une forme de résistance à une certaine sémantique officielle et creuse qui a tendance justement à soit à déshumaniser, soit à rendre abstrait une situation, soit à en extraire la dimension existentielle. Et pour moi, l'approche poétique n'est pas forcément une approche... vous voyez, c'est comme le terme romantique, ça peut avoir un côté un peu un peu naïf ou un peu niais, un peu. La poésie, c'est aussi une résistance à un certain discours normatif. Après, la dimension fantastique du film, elle vient vraiment du fait à la fois qu'il était question d'une jeunesse disparue, donc fantôme, dans l'idée que cette jeunesse ne pouvait que revenir hanter le présent et s'interroger sur son dérèglement et les dysfonctionnements d'une société. Les fantômes reviennent parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre et à nous éclairer sur les dysfonctionnements de notre manière de vivre. En l'occurrence, ces jeunes reviennent parce qu'ils n'ont pas été payés, parce qu'ils n'ont pas de sépulture, étant morts en mer, l'Atlantique étant depuis des siècles, mais en l'occurrence toujours aujourd'hui, un tombeau. Ils reviennent. La question, c'était si ces jeunes revenaient, qu'est-ce qu'ils auraient à dire? En l'occurrence, ces jeunes reviennent pour réclamer leur argent, pour que justice soit faite. Peut-être parce qu'il y a tellement de fantômes dans l'Atlantique qu'il n'y a plus de place, qu'il faut revenir, qu'il faut commencer à réparer. Et au milieu de ce groupe de jeunes qui revient pour réclamer vengeance, Souleymane, lui, revient pour faire ses adieux et passer une dernière nuit d'amour avec celle qu'il aime, mais aussi pour saccager son mariage et pour insuffler à Ada, qui, elle, est encore en vie, le courage de vivre sa vie.
De se révolter contre ses parents.
Ouais, de se révolter et d'avoir le courage de vivre sa vie en accord avec ses désirs, ce qui demande un grand courage, je pense.
Mathie Diop, votre film Atlantique, votre premier long métrage, a reçu le Grand Prix, on le disait tout à l'heure, le Grand Prix au Festival de Cannes. Certains disent que c'est la Palme d'Or. Il a été acheté par Netflix au Festival de Toronto. Votre film a été projeté. Vous avez reçu vous-même le Mary Pickford Award. Comment ça se passe depuis Cannes? Est-ce que vous avez l'impression que le temps s'est accéléré pour vous?
Bah, oui, j'ai l'impression que je cours derrière mon film, en fait.
Surtout un film que vous avez eu si longtemps à monter et à concevoir.
C'est à la fois profondément joyeux et réconfortant et enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Mais d'un côté, ça fait tellement longtemps que je porte ce film, que je travaille sur ce film, que toute ma vie est dédiée à ce film, que ça fait du bien aussi de se sentir comprise, de se sentir entendue, de sentir que tous les choix qu'on a faits, tout ce sur quoi j'ai refusé de faire des compromis, et la liste est longue sur ce film, est reconnue. Et y a ce film-là, mais finalement, c'est tous les films que j'ai fait avant qui sont aussi qui sont récompensés pour moi quelque part. C'est toute une première, tout un gros premier chapitre de travail. Donc c'est j'ai la chance de recevoir cette reconnaissance qui arrive relativement tôt et en même temps je travaille depuis très longtemps. Après, oui, c'est par ailleurs un moment un peu fou parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'un certain temps pour que les choses pour intégrer les choses. Et je trouve que terminer un long métrage, cette aventure si éprouvante artistiquement et humainement, il faut déjà un certain temps. Et là, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que j'ai même pas eu le temps de comprendre que j'avais fini cette aventure dingue, que tout est arrivé et que je me suis sentie un petit peu,
Dépassé.
Ouais. Mais là, je commence à reprendre le dessus sur les événements, réaliser ce qui se passe vraiment. Et puis surtout, j'essaye d'en profiter et de vivre tout ça avec de la joie. Et parce que c'est pas toujours simple de vivre les choses pour ce qu'elles sont au moment où ça se passe. On peut être un peu en décalage. Je rends compte plus tard que c'était extraordinaire, mais qu'on n'était pas à la hauteur de l'événement. Donc j'essaye d'en profiter et de avec beaucoup de gratitude et d'émotion.
Et puis alors on parlait de Toronto et de Cannes, mais il y a eu aussi un moment important pour vous qui était la sortie du film à Dakar,
qui était le Ouais, l'un des moments les plus importants pour
voilà,
moi.
Voilà, c'était cet été. Et donc, à cette occasion, notre correspondant à Dakar, William Delesseux, a pu rencontrer les acteurs du film.
Dans Atlantique, Aminata Khan incarne Fanta, personnage très présent, une des amies la plus proche de Ada, l'héroïne du film. Mati Diop l'a embauchée directement avant le tournage. La jeune fille de 23 ans a quitté les tresses qu'elle avait dans le long métrage.
Non, moi, j'ai pas fait casting. Je l'ai rencontré dans une boîte de nuit, comme je suis comme ça, Rek. Elle m'a dit, c'est toi, Fanta. Après, elle m'a dit de s'asseoir, elle m'a expliqué. J'avais un peu peur parce que je ne l'avais pas encore vue avant. C'était pour la première fois. Elle me parlait de son film. J'avais peur, franchement, parler. Et je me suis dit, waouh, ça, Dieu m'a aidée parce que avant je voulais être une actrice. Et voilà le moment, quoi.
Aminata Khan va prendre son taxi. Durant le tournage, elle dit avoir découvert plusieurs facettes de son pays.
Je partais rarement à Charo, je ne connaissais pas bien là-bas. Et ça m'a permis de voir une autre vie.
C'est une vision fidèle du Sénégal pour vous ?
Oui, fidèle, beaucoup même, trop trop fidèle aussi. Parce qu'elle a montré tout ce qu'on vit ici, tout ce qui est là aussi.
Dans Atlantique, les acteurs parlent tous Wolof, la langue la plus comprise au Sénégal. Amadou Mbo, l'acteur qui joue l'inspecteur de police.
C'est important parce que ça nous rappelle qu'on est toujours sénégalais et on n'est pas obligé d'utiliser les autres langues pour pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Par exemple, là, je suis plus à l'aise à faire un film en Wolof qu'en anglais ou en français, bien vrai que je suis bilingue sur ce côté-là. Voilà, donc c'est une opportunité pour les Sénégalais de continuer à faire des films en Wolof et d'exporter notre langue, en fait.
Direction la maison de production locale, Cinécap. Un jardin à l'intérieur, une petite case ceinturée de moustiquaires, où Marsal, le producteur exécutif du film.
Beaucoup de réunions sont tenues là, avec l'équipe de Mati ou d'Alain Gomis et même de Bertrand Tavernier quand il tournait.
Où Marsal, fier du parcours du film, à Cannes.
Mais cela prouve la place de l'Afrique. La place de l'Afrique dans le concert du monde. Aujourd'hui, nos modèles doivent être acceptés par tous parce que ce film témoigne ce qu'on appelle la vitalité, le dynamisme du génie créateur sénégalais.
Un film 100% sénégalais dans son esprit dont les droits ont été cédés pour une meilleure diffusion au géant américain Netflix. William Delesseux, Dakar, RFI.
Voilà un reportage à Dakar au moment de la sortie de votre film, Mati Diop. Alors le producteur Oumar Sall dit que c'est un film important pour le Sénégal. Et il est précisé aussi, comme on le disait, que le film a été vendu à Netflix. C'était une manière, effectivement, de que le film soit vu en Afrique, y compris dans des pays où il n'y a pas nécessairement de salles de cinéma.
Bah, c'était pas une manière, c'était un souhait et une évidence que le film sorte à Dakar, en fait. Enfin, comme il sort en France, comme il sortira dans d'autres pays, en l'occurrence, c'est là-bas qu'il a été tourné.
Écrit. Non, mais je disais qu'il soit vendu à Netflix, ce qui permet aussi d'avoir une vraie diffusion sur des pays sans salle de cinéma.
Oui, mais c'est deux choses différentes, en fait. Il y a à la fois premièrement, avant de parler de Netflix, le choix, le désir, le souhait que le film sorte en salle à Dakar, parce qu'il est question de ça avant tout, d'un film qui a besoin de rencontrer son public en salle, son public en l'occurrence sénégalais, donc ça c'était une priorité, et ça a eu lieu cet été le 2 août, avec 4 projections, le film est vraiment sorti en salle, on a fait un travail assez important de communication pour que ce soit un événement, même si le Grand Prix a évidemment aidé à ce que ça soit un événement avant même qu'on aille le montrer là-bas. Les réactions ont été très fortes et c'était très important pour moi de connaître, de vérifier, de savoir si le public sénégalais se reconnaissait ou pas dans le film. Il s'est avéré que oui, et pour moi c'est la plus grande la plus grande des joies.
Et voir la réaction des spectateurs ont peut-être réagi à des moments différents.
Oui, alors il se trouve qu'ils riaient. Bah, c'était passionnant de découvrir pour moi, de redécouvrir le film au sein d'un public qui comprend la langue. C'était génial. Alors les gens riaient beaucoup plus à des moments attendus et inattendus. Et puis voilà, et puis j'ai eu des retours directement. C'était très très fort.
Moi, la question que je me posais, est-ce que Vous avez parfois été surprise par les réactions des gens. Moi, ce qui m'avait beaucoup surprise à Cannes, quand j'avais rencontré l'actrice Nicole Sougou,
oui,
hein, qui joue Dior,
tout
qui est
fait
une des amies de ouais, l'héroïne, ouais, je pensais que pour elle, elle allait me parler d'un film sur les migrations, sur les jeunes qui partent en pirogue, etc. Et elle, ce qui l'intéressait, et ce qui intéressait toutes les filles du groupe, d'ailleurs, c'était l'idée du mariage forcé, c'est-à-dire l'idée d'une fille qui a le courage de refuser un mariage que ses parents vont lui imposer.
Oui, bah je pense qu'il y a à la fois une histoire d'amour, un film très social, une enquête policière, un film fantastique. Au fond, ce dont le film parle avant tout, c'est vraiment des tensions existentielles qui traversent cette jeunesse et cette société. Après, je pense que chacun, selon sa propre histoire, est plus ou moins sensible à une thématique en particulier. L'histoire de la migration n'est pas forcément ce qui revient le plus, en tout cas dans les discussions avec les Sénégalais, puisque c'est à la fois le moteur de l'histoire, la disparition des garçons qui partent en mer, qui enclenche le récit, qui fait de ces jeunes femmes des héroïnes, des survivantes à cette disparition quelque part. Donc je suis pas si surprise que ça, que la migration soit pas tant mise en avant, parce que je sais pas si on peut dire que c'est un film sur la migration. Je pense qu'on peut avant tout dire que c'est un film sur une histoire d'amour entre deux jeunes rendue impossible par un contexte, par une certaine violence capitaliste, par un contexte social, par une pression sociale et par un ensemble de dysfonctionnements, et que de ce dysfonctionnement naît aussi le fantastique.
En tout cas, Aminata Khan, quand on lui demande hein, si c'est fidèle, elle dit trop fidèle. Donc,
ouais,
ils sont vraiment reconnus dans le film.
Ben oui, oui, oui. C'est quelque chose auquel j'ai porté beaucoup de soin dès le scénario. Je me souviens que la première ou deuxième ou troisième, je ne sais plus, version de scénario, je l'ai envoyée à un ami cinéaste, cadreur, producteur qui fait beaucoup de choses et qui a été l'un de mes collaborateurs les plus précieux sur ce film, qui s'appelle Fabakari Asimbi Koli. Et voilà, je lui avais envoyé pour m'assurer qu'il reconnaissait son quotidien, son Sénégal d'aujourd'hui. Je l'avais aussi envoyé à mon père d'ailleurs, qui pour le coup ne vit plus là-bas aujourd'hui. Donc mais je l'ai envoyé à 2-3 personnes pour avoir, et au producteur Omar Sall évidemment, pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'écart trop important entre ma vision et leur réalité. Il s'est avéré que non. Et c'est vrai que même le film terminé, j'avais une certaine impréhension quand même de comment le public allait le recevoir. Et puis ils auraient pu décider de pas l'aimer juste parce que je ne parle pas wolof, que je vis pas là-bas. Enfin, ils auraient pu le rejeter aussi venant d'une métisse qui ne vit pas là-bas au quotidien. Mais en même temps, je pense que c'est aussi la distance que j'ai sur cet endroit, à la fois mon lien très très fort à cet endroit, l'histoire qui me précède aussi de cet endroit, mais aussi la distance que j'ai avec cet endroit qui me permet de le regarder avec peut-être, je sais pas, une lucidité, puis beaucoup d'amour aussi. C'est aussi une déclaration d'amour à cet endroit, aux personnes que je filme. Et en tout cas, moi, je suis très heureuse de sentir que les Sénégalais se reconnaissent. C'est un miroir tendu, hein, finalement.
Mais vous avez un rapport au Sénégal, même si vous n'y habitez pas. Je ne sais pas si vous y avez habité dans votre enfance, mais vous avez un lien quand même fort malgré
oui,
les
viscéral,
années.
Bien
viscéral,
bien sûr.
Vous êtes allée...
J'y suis allée beaucoup enfant, régulièrement en vacances avec mes parents et ensuite beaucoup ma mère, jusqu'à, je ne sais pas, je dirais environ 10-12 ans. Et il y a eu une période très longue de plus de 10 ans où je n'y ai plus du tout mis les pieds. Et le retour vers Dakar, vers le Sénégal, est vraiment une décision qui venait de moi. J'avais besoin de reconquérir une part de moi-même. Et
il y a eu un déclencheur, un moment particulier.
Il y a eu plusieurs déclencheurs, ouais, ouais. En l'occurrence, jouer la fille de Lionel, incarnée par Alex Descas dans 35 Chrome de Claire Denis. Claire Denis m'a, je pense, rappelé que j'étais pas seulement blanche et française, mais aussi noire et africaine. Et le fait de jouer la fille d'un homme noir dans ce film, de me voir au cinéma en tant que fille d'un homme noir, ça me dit, tiens, mais je suis au fait, je viens aussi de là. Non, mais j'exagère, mais c'est pas faux. J'ai réalisé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mes origines sont vraiment quelque chose que ma mère, blanche, française, a toujours veillé à ce que je cultive, en m'emmenant régulièrement au Sénégal enfant.
Plus que votre père ?
Oui, plus que mon père qui, lui, en tant que Sénégalais, qui a quitté son propre pays natal dans les années 70, après Tukibuki, à 25 ans, en tant que jeune artiste, musicien, qui avait justement, lui, besoin de se réinventer ailleurs, de confronter sa culture avec une autre, et de faire rupture. Lui, je pense que pendant un certain nombre d'années, il a eu besoin de presque de se construire en négatif, en contrepoint de la culture qu'il a d'abord façonnée et qu'il a eu besoin de passer par une phase de déconstruction de cette culture-là. Tandis que ma mère, elle, a voulu, tout en m'élevant à Paris, en France, prendre soin de ce lien-là. Et après, quand il a été question, beaucoup plus tard, vers 25 et quelques, 26, d'y retourner, là, c'était vraiment, il était question de savoir ce que moi, je voulais faire de cet héritage-là et de qu'est-ce que je voulais en faire, en fait.
Et en ce moment, on a l'impression que ça bouge pas mal au Sénégal. On pense à vous, bien sûr, mais on pense aussi à Diana Gaye, on pense à Alain Gomis.
Oui, alors tout à fait. Il se trouve qu'on cite que des personnes qui ne vivent pas là-bas et qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes cinéastes, stylistes, artistes qui font des choses passionnantes. Et moi, encore là, cet été à Dakar, j'ai eu l'occasion, à travers la sortie du film, de rencontrer beaucoup d'artistes que je connaissais pas ou dont j'avais entendu parler mais que j'ai rencontré, qui sont venus voir le film. Je pense à Célie Rabican qui est styliste, à Sophie Zinga qui est styliste aussi. J'ai rencontré Felwine Sarr aussi que dont j'avais lu l'essai Afrotopia qui est
devenu presque un classique.
Un essai voilà essentiel.
Et en cinéma aussi.
En cinéma, il y a des jeunes cinéastes qui ont fait des courts-métrages dont j'ai entendu parler, que j'ai pas encore vu. Il y a un cinéaste sénégalais qui vient de gagner un prix à Locarno, dont vous avez dû entendre parler, je pense.
Mamadou Dia.
Voilà, Mamadou Dia, j'ai pas encore vu
son film. Mais qui vit à New York. Donc okay. C'est vrai qu'on parle de gens qui vivent alors, en général sur plusieurs continents.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'était une histoire. C'était pas pour minimiser l'importance des films de Gomis et de Diana Gaye. Au contraire, c'est des films que j'aime beaucoup. C'est juste que voilà, il y a aussi ceux qui vivent qui vivent à Dakar et qui font des choses prometteuses. Mais
alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune cinéaste qui voudrait, un jeune homme ou une jeune femme qui voudrait faire des films aujourd'hui à Dakar?
Je pense que je lui donnerais les mêmes conseils que je donnerais à n'importe quel cinéaste qui vient d'ailleurs, c'est d'essayer de raconter des histoires que seuls peuvent raconter, en fait. De trouver il y a forcément des choses, des situations, des histoires qu'on est seul à pouvoir raconter d'une certaine manière. Avant d'écrire Atlantique, j'avais le projet de réaliser un film qui devait être l'adaptation d'un roman. J'aurais adoré le faire, j'étais amoureuse de ce roman et j'étais sur le point de... J'avais écrit un traitement, j'étais sur le point de le faire. Et un jour, j'ai compris... Bon, déjà, j'ai compris que ça avait beaucoup plus de sens pour moi que mon premier long-métrage se passe à Dakar. Mais j'ai surtout compris que ce que j'allais pouvoir proposer à Dakar, ce dont je voulais parler et la manière dont j'avais envie d'en parler, qu'il n'y avait que moi qui pouvais le raconter comme ça, aujourd'hui, ce film-là. Que personne d'autre que moi pouvait raconter cette histoire de cette manière. Et ce qu'il y a d'extrêmement précieux dans les films, c'est de sentir que c'est vraiment un regard très personnel et très singulier porté sur une situation. C'est pas tant l'histoire qu'on raconte, c'est vraiment la manière et qu'est-ce qu'on met de sa propre vie dans cette histoire. Parce que dans ce film, je parle autant d'une situation contemporaine sénégalaise que de ma propre vie à moi. Alors peut-être que ça se voit pas et tant mieux. Mais en fait, j'ai mis toute ma vie dans ce film.
Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission spéciale diffusée pour la première fois le 28 septembre dernier. Une émission consacrée à Mati Diop et à son film Atlantique, dont on vient d'apprendre qu'il fait partie de la shortlist pour l'Oscar du meilleur film étranger. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard et Jérémy Besset.
Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet rfi.fr. Rendez-vous samedi prochain pour une émission spéciale consacrée à un petit bijou burlesque qui nous vient du Maroc. Ça s'appelle Le miracle du saint inconnu et nous rencontrons son réalisateur, Alaeddine Aljem. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Religion du monde.